que disent mes éminents collègues, c'est très sympa.
Voilà, aussi Pascal, toi, donc tu es au Conseil d'État, des États depuis aussi quelques temps. Qu'est-ce que tu as défendu ces derniers temps, en tout cas pour l'année 2024, sous la coupole à Berne?
Pas mal d'objets qui concernent l'économie. Ces objets ont été traités par le Conseil fédéral. C'est assez en attente, puisqu'on a un gros débat sur la fiscalité immobilière. Donc j'ai deux motions qui sont reconnues comme fort intéressantes, mais si on supprime l'impôt sur la valeur locative, elles n'auraient plus de sens, puisque toutes les déductions et toutes les pratiques seraient remises en question. Donc ça, c'est des textes qui ont été plutôt très bien accueillis. Mais on aura une votation qui est prévue d'ici à la fin de cette année, sur la suppression ou pas de la valeur locative. Certains souhaiteraient la supprimer en disant on va faire une économie, mais en même temps ils ne pourront plus rien déduire, tous les frais d'entretien. Les artisans vont perdre, hein, ils vont perdre des possibilités en quelque sorte d'investissement fait par le propriétaire. Et puis pour les jeunes propriétaires, ben c'est clair que c'est un blocage pour l'accès à la propriété. Donc ça, c'est un débat qui a eu lieu, qui s'est terminé en décembre dernier. Là, je suis beaucoup intervenu sur ce thème. Maintenant on va voir la suite sous la coupole. J'ai à peu près 7 ou 8 textes qui sont maintenant en examen, qui concernent, comme je l'ai dit, des sujets importants pour la Suisse, comme par exemple la question d'une Suisse à 10 millions ou pas, quelle incidence ça peut avoir pour Sainte-Croix. Hein. On sait aujourd'hui que par exemple notre hôpital, c'est beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui travaillent, et puis que sans le centre de soins et de santé communautaire, ces travailleurs, on l'a vu dans le cadre du Covid, c'est des problèmes. Sainte-Croix est une des communes les plus vieilles en âge du canton. Et donc on a besoin de force vive. C'est un débat qui va être important, de savoir comment trouver des solutions pour garantir un équilibre au niveau sociétal. Ensuite, c'est clair que c'est pas le même mécanisme de fonctionnement, le Conseil des États ou le Conseil national. On a beaucoup plus de commissions, donc je suis très actif dans la commission de sécurité. Là aussi, beaucoup d'interventions qui ont fait qu'on a pu lutter contre des aberrations de propositions, de soutenir massivement l'Ukraine, contre une augmentation du budget de l'armée. Ça, on a lutté avec une approche juridique. Ça a été balayé sur des interventions que j'ai faites en commission. Puis maintenant, on a augmenté les budgets. Avec Yvan, lui, il est au national. Moi, je suis aux États, mais les votes sur les budgets militaires, c'était un point qui nous tenait à cœur, de reprendre un peu la main et puis de renforcer la sécurité intérieure et la défense dite passive de la Suisse dans un monde qui est globalisé, de plus en plus brutalisé. On le voit, hein, c'est de plus en plus complexe. Les pays se parlent de moins en moins. Donc voilà, donc aux États, c'est tous des thèmes qui sont sur la table. Hier, j'étais à Berne, on a discuté de la neutralité. Un très long débat, à peu près 4 heures de débat sur le dossier de la neutralité. C'est une initiative du parti à Yvan, qui est sur le principe, moi je suis plutôt très favorable, mais si on la fige, cette notion de neutralité dans la Constitution, ça veut dire qu'on se bloque des possibilités de pouvoir agir. Donc voilà, c'est un débat que le peuple suisse sera appelé à voter l'année prochaine, ou à la fin de cette année, l'année prochaine. C'est pas encore tout à fait décidé s'il y aura un contre-projet ou pas. Ma commission en a voté, on n'est pas favorable à un contre-projet, donc ça veut dire qu'on ira devant le peuple avec l'initiative, avec des arguments pour ou contre. Donc voilà, c'est tous ces thèmes qui sont multiples. Et puis c'est vrai, quand on est aux finances, on touche à tout implicitement, c'est transversal, et à chaque fois il y a des débats qui sont assez forts. Donc voilà, donc c'est plutôt très plaisant, puis c'est une chambre qui est très calme, on peut s'exprimer, on a le droit de prendre la parole comme on a envie, avec des règles, hein, il y a des règles. Si on est de la commission, on peut intervenir tout de suite, et puis si on n'est pas membre de la commission, on peut seulement intervenir à la fin des prises de parole des membres de la commission. Et puis généralement, on n'intervient qu'une seule fois, ce qui fait qu'il faut plutôt bien organiser sa prise de parole pour être entendu, et puis que ça amène une plus-value au débat. On ne peut pas non plus répéter ce qu'a dit la personne avant nous. Donc c'est ce qui fait que c'est des débats qui sont assez rapides. Donc voilà, donc c'est plutôt très plaisant. Donc une chambre qui me plaît bien.
Est-ce que ça correspond aussi à 50% de ton temps comme un peu plus. Pour le Conseil national, un peu plus
J'ai 3 à 4 commissions, donc déjà ça fait l'année, la semaine prochaine je serai 2 fois à Berne, 3 fois à Berne, puisque je retourne encore le samedi matin. Ensuite les commissions, elles sont multiples. et transverse, puis aux États, on se remplace en permanence, ce qui fait que tout d'un coup, je peux me retrouver, je me suis retrouvé dans une commission qui a traité d'un sujet fiscal complexe, qui est l'imposition individuelle. Et là, dans ce dossier précis, c'est ma voix qui va trancher dans un sens ou dans un autre, parce que les blocs sont figés. Les partis politiques sont figés. C'est-à-dire que les Verts libéraux, le PLR, est sur la même longueur d'onde pour passer à l'imposition individuelle. C'est une initiative dite des femmes PLR. Et puis de l'autre côté, pour d'autres raisons, l'UDC et le PDC sont sur une autre voie, sur un autre modèle fiscal. Et là, il n'y a pas de voie divergente. Y a pas personne ne va passer d'un bloc à un autre. Ça veut dire que... Puis moi, je suis plutôt pas très favorable à la modification de la pratique, mais je vais, par solidarité avec mon bloc politique, accepter de garder la voie. C'est cette voie-là qui va trancher.
Okay.
Donc c'est ça. Les voies aux États, sont les dévotes souvent à une voie près, souvent.
Ouais, vous êtes 26,
46.
46. De par canton.
23 cantons.
23 cantons. On va passer du côté de Michel. Michel, toi, tu as été nommé chancelier d'État depuis le 1er avril 2024, si je me
désigné,
trompe.
Désigné.
Parce qu'il n'y a pas d'élection. Hein,
on a un contrat de droit administratif, ce qui fait que la nomination n'existe plus au sens du terme du fonctionnaire qui existait par le passé.
Okay. Comment ça se passe, ce nouveau job de chancelier d'État ?
Le job de chancelier d'État se passe bien. J'ai beaucoup de plaisir à le mener. C'est une fonction un peu particulière, c'est la seule fonction qui existe au sein de l'État. Pour moi, c'est une fonction avec diverses facettes, multitude de facettes, des semaines qui ne se ressemblent pas du tout, à l'exception du mercredi où on assiste à la séance du gouvernement. On est au service, on travaille pour la planifier, pour qu'elle se passe la manière la plus fluide, qu'on laisse la place, évidemment, plus on tend vers le 100% pour les discussions du Conseil d'État, avec ce qui tourne autour, des invités, des compléments. On amène des éléments complémentaires pour que les décisions puissent être prises et ensuite transmises à la quarantaine de services de l'État pour que l'action du gouvernement se transforme en mise en œuvre pour la population.
Ouais. Est-ce que si on affuble ton rôle comme huitième élément du Conseil, est-ce que tu trouves c'est usurpé ou bien...
Totalement usurpé, je l'ai dit depuis l'entrée, c'est un mythe.
Je n'ose pas dire le contraire.
J'ose pas, M. Bourleau en face de moi, c'est difficile. Non, là, je l'ai dit tout d'abord, il n'y a pas de huitième Conseil d'État. Nous sommes des employés avec une fonction particulière, mais on a une voix consultative. Les Conseils d'État, c'est eux qui décident, c'est l'organe exécutif, ce qui veut dire que la décision elle est prise uniquement par le Conseil d'État. On vient en appui, on facilite les décisions. Ensuite, la décision, elle appartient uniquement au Conseil d'État. Il n'existe pas de huitième Conseil d'État. En tout cas, je ne l'ai pas lu dans la Constitution.
Mais si je peux faire une remarque, c'est peut-être pas le huitième, mais c'est peut-être le premier. Parce que nous, on passe.
Il reste. C'est ton prédécesseur qu'on a eu la chance d'avoir quatre fois autour de cette table à l'interview, monsieur... Enfin, un de tes prédécesseurs, je crois qu'il y a eu deux personnes entre deux, mais M. Grandjean, qui nous a fait l'honneur de venir au moins quatre fois ici. En tout cas, lui, enfin, on sentait aussi de son côté qu'il avait aussi plaisir comme toi. Combien de personnes travaillent en fait dans la chancellerie, pour la chancellerie ?
Alors, il y a un double qui est une chancellerie restreinte, ce qui s'appelle autour du Conseil d'État, on a une petite dizaine. Et puis la chancellerie de son ensemble, c'est à peu près 70 personnes, puisque j'ai le service de communication, les archives cotonales, les bureaux de médiation, toutes les lois de protection et d'information à la population. Et ça fait à peu près 70 personnes qui tournent autour de la chancellerie élargie.
Très bien.
Mais c'est vrai que Michel, il a été également secrétaire municipal ici à Sainte-Croix. Mmh. Et c'est des personnes qui travaillent dans l'ombre, mais qui sont essentielles au fonctionnement, en tout cas, d'une commune, et qui sont essentielles au fonctionnement du canton de Vaud. Donc, on a besoin de s'appuyer sur leur expertise, et on a besoin des fois de se faire guider, nous, en politique, et sur les pas les décisions, mais des fois sur la manière de faire qui respecte finalement des fois le cadre légal.
Et dans ton activité, est-ce qu'il y a un département sollicite plus la chancellerie ou un conseiller d'État qui, de par sa fonction, ses besoins, demande plus à la chancellerie son appui, ou bien c'est à peu près égal pour
Un département qui active plus la chancellerie qu'un autre, on est plus en contact. Le chancelier n'a pas de chef de département en soi, mais il se réfère à la présidente dans le cadre de l'organisation du Conseil d'État. Puis dans ce cadre-là, effectivement, il y a plus d'interactions avec la présidente, mais il y a beaucoup d'interactions avec les services et tous les chefs de service des chefs et chefs de département de l'État. C'est de manière continue pendant la semaine. Mais j'ai pas un service plus qu'un autre.
On va laisser partir Yvan, qui doit aller à la partie officielle d'ouverture du carnaval. Il est 18h10. Je rappelle que c'est à 18h30 qu'il y a la remise des clés. Donc, bon courage.
En effet, je vais aller remettre les clés. J'y ai depuis 4 jours. J'espère qu'ils vont en faire bon usage. Je souhaite à toutes et tous une très bonne soirée.
Merci.
Et à tout à l'heure à mes collègues sous la cotine. Et puis, vive le carnaval.
Merci, Yvan, pour ta participation.
Tout à l'heure.
Et à certainement à tout à l'heure. Voilà. Je vais revenir avec... Monsieur Bourleau.
Lorsque j'étais syndic, moi, j'ai jamais voulu faire une remise des clés. On a une grande fête qui s'appelle la braderie. Et puis, on m'avait souvent suggéré que symboliquement, on devrait donner la clé à la braderie. Mais j'ai toujours refusé. Mais ça s'est bien passé quand même.
Alors, nos clés, elles sont énormes. Hein. Enfin, en tout cas, celles qui sont activées ici. Ouais, non, mais c'est même du temps de Pascal, quand Pascal était président, il y avait toujours eu cette tradition de remise des clés le vendredi à l'ouverture du carnaval, avec une petite scénette qui se faisait encore à l'époque devant le bâtiment communal. C'est une tradition qui, ma foi, se perpétue, heureusement. Comment évaluez-vous, M. Bourleau, l'impact des nouvelles technologies dans l'enseignement? Et surtout, on en parle de plus en plus ces temps, de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle est utilisée dans l'enseignement ou voire même dans l'administration, les profs? Est-ce que vous utilisez ou bien vous bloquez, comme dans certaines entreprises, vous bloquez l'accès à l'intelligence artificielle?
Ben, je dirais que toutes les variantes sont envisageables, c'est-à-dire qu'il y a forcément des changements qui sont en train de s'opérer. Ça va très vite et donc pour nous aussi, bien sûr, c'est aussi complexe. Le monde enseignant attendait et attend des prises de position de notre part assez fermes, disons, sur ces questions-là. Puis en même temps, comme l'intelligence artificielle, par exemple, enfin le numérique au sens large du terme, eh bien, c'est partout aujourd'hui. On a deux défis. Un, c'est ce que je disais, assurer un enseignement qui tienne compte de l'intelligence artificielle, de son existence et de son accessibilité très facile pour tout le monde. Et puis en même temps, préparer les jeunes générations à l'utiliser à bon escient, mais également à utiliser les réseaux sociaux, à en avoir peur, de les craindre un peu, dans la mesure où il faut apprendre à les maîtriser. Eh bien, ces objectifs-là ne sont pas contradictoires, mais sont en constante évolution. Et donc, nous avons mis en place quelques comités stratégiques qui réfléchissent à ça. On fait venir des experts. Et puis, on est en train, au niveau de l'enseignement, mais avec les cantons romands, parce que bien entendu que ça n'aurait pas de sens de rester un peu seul chez soi, parce que le monde entier, en fait, est en train de réfléchir à ça. Toutes les écoles, toutes les universités du monde font des tests, par exemple, eh bien, dans le canton de Vaud, aussi bien l'université de Lausanne que les PFL et peut-être les HES également, ont déjà imaginé ou expérimenté des examens avec l'utilisation obligatoire de l'intelligence artificielle. Et puis en parallèle à ça, eh bien, on est en train de multiplier des examens oraux où il n'y a plus d'assistance du tout pour vérifier finalement que les matières sont bien apprises et que ce n'est pas une intelligence artificielle qui a tout fait. Donc tout ça est en train de se développer, de se caler, je dirais, parce que notamment lors de l'apprentissage et en formation professionnelle, eh bien, beaucoup de travaux doivent être faits à la maison. Et puis, bien entendu, ils comptent dans les notes, mais ils peuvent être faits aussi par des intelligences artificielles. Et donc, bien sûr, il faut revoir un peu tout ça. Mais on ne s'est pas précipité, et je pense qu'on a eu raison, quelques cantons suisses ont voulu tout cadrer très rapidement. Ils se sont fait dépasser 3 mois après, les directives n'étaient plus valables parce que, évidemment, tout à coup, ça s'est déployé partout et l'utilisation devient très populaire. Hein, et, alors, je ne suis pas un bon exemple, mais bon nombre de mes amis, dans beaucoup d'entreprises très différentes, hein, utilisent aujourd'hui, tous les jours, l'intelligence artificielle pour accomplir leurs tâches. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment le développement est très rapide. Et, mais on est maintenant bientôt prêt pour caler un peu, modifier les formations, pour essayer de faire en sorte que voilà, ça se passe bien et qu'on utilise ça. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a de la résistance, vous savez, dans l'école et dans les systèmes de formation. Il y a de la résistance de la part des enseignants qui craignent de voir une sorte d'enseignement traditionnel disparaître. Mais quoi qu'on puisse penser, c'est en train de conquérir le monde. Et que le numérique est en train d'être utilisé par tout le monde, depuis de plus en plus jeune, malheureusement, mais enfin c'est comme ça, et va nous assister en permanence et toujours plus. Donc il faut préparer notre jeunesse à ça, il faut l'armer pour vivre avec ça, pour qu'elle ne soit pas dépendante, mais que ça lui amène quelque chose et que ça profite, en fait, dans la vie de tout un chacun. Et pas, je pense que la peur, c'est bien, ça nous empêche de faire des erreurs, ou moins d'erreurs peut-être, mais ça ne doit pas être une peur panique qui nous empêche d'avancer. Et voilà, donc l'enseignement doit évoluer, il évolue, et puis je dois dire que je peux compter sur le concours de beaucoup d'enseignants qui participent à ce développement-là, qui est parfois complexe et pas naturel chez un enseignant qui a fait une carrière en enseignant de manière tout à fait traditionnelle. Ceci dit, et pour pas que les gens ne comprennent pas ce qui se passe aujourd'hui à l'école, on ne supprime pas les livres. Il y a des moyens d'enseignement. Ces moyens-là, eh bien, des nouveaux moyens de français vont être distribués bientôt dans les classes. On ne remplace pas les livres. L'exemple souvent qui est cité, c'est l'exemple suédois qui revient en arrière. Mais l'exemple suédois avait abandonné les livres, ce qui n'est pas du tout notre cas. Maximum 20% du temps durant une semaine devant un écran dans l'école vaudoise. Et on ne va pas déroger à ça. On n'est pas du tout en train de mettre tout le monde devant des écrans. C'est pas du tout l'objectif. Les moyens traditionnels existent. Mais voilà, il faut essayer d'armer vraiment notre jeunesse dans ce monde numérique qui se développe toujours plus.
Très bien. Et au niveau fédéral, Pascal, est-ce qu'il y a au niveau de la Coupe à la Berne aussi des débats par rapport à cette intelligence artificielle de réglementation ou...
Oui, tout d'abord, je voudrais féliciter le conseiller d'État Borloo pour la reprise un peu en main du département, et puis d'aller pas à pas et progressivement dans cette notion de formation. D'abord, il faut former les enseignants, puis il faut voir comment ça évolue, et je crois qu'il a fait un très bon boulot de pacification, parce que vu de l'extérieur, il y avait beaucoup d'excitation sur la prise en main des nouveaux outils, sur l'équipement des enfants avec soit des tablettes, soit des ordinateurs portables ou autres, et tout ça, ben ça s'est un peu calmé, et je peux que le féliciter vraiment. Vu de l'extérieur, c'est bon, l'école est plutôt pacifiée, donc qui continue comme ça pour le bien du pays de Vaud. Maintenant, à la question au niveau fédéral, alors l'enseignement est de compétences cantonales. Donc, c'est les cantons qui décident de leur priorisation, de leur modèle, de leur plan d'études. C'est les cantons qui se coordonnent entre eux. Au niveau fédéral, il y a beaucoup de débats. Là aussi, beaucoup d'excitation, parce que les gens veulent aller plus vite que la musique. Donc, il y a un courant qui voudrait légiférer pour, en quelque sorte, non pas sanctionner, mais canaliser l'évolution technologique. Mais comme l'a dit M. Borloo, ça va tellement vite que ce qui est mis en place est déjà obsolète à peine c'est débattu. Donc aujourd'hui, le Parlement, par les deux chambres, il y a des groupes de travail qui sont mis en place, des groupes apolitiques qui viennent présenter, en quelque sorte, l'évolution. Puis il faut savoir que c'est aussi du business, hein, c'est aussi du business. Donc voilà, donc cet aspect-là, ben, il faut l'accompagner. Et au niveau fédéral, ben, ça sera plutôt des lois d'accompagnement où on va essayer de réglementer. Il y a aussi des débats maintenant qui ont été initiés sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi le prolongement entre l'intelligence artificielle, la formation dans ces nouveaux canaux, ben, y a le problème des réseaux sociaux. Et puis on a vu que les Américains sont revenus en arrière. Je ne pense pas que c'est faux. Il y a eu beaucoup d'excitation sur la notion des fake news et autres, mais c'est quasi incontrôlable. Et on l'a vu, même si on déposait une plainte, si on fait quelque chose, il n'y a qu'un seul moyen pour contrôler un réseau social, c'est de le fermer. C'est ce que font les pays totalitaires. De temps en temps, on voit des pays boucler le réseau social pour des questions d'éviter une révolution, éviter une accélération d'un mouvement. Mais autrement, c'est très compliqué. Et donc, mieux vaut former. Et c'est aussi pour ça que la notion de formation au niveau de l'école, l'apprentissage, l'accompagnement, ben, je pense que ce sera une des méthodes. On est dans une période de transition. Ça, c'est clair. Comme l'a dit M. Borloo, tout le monde l'utilise. Aujourd'hui, sur nos iPads, la communication a totalement changé. Et donc, il faut, en quelque sorte, comme dans Le Petit Prince, apprivoiser l'outil. Et ça prendra quelques années. Et c'est comme aussi la transition qu'on a eue à l'époque, quand on a passé de l'ère où l'activité humaine était plutôt agricole et agraire, à une ère industrielle et automatisée. Donc, il y a une transition qui va se faire, mais moi, je pense que je crois en l'être humain, on trouvera des solutions. Il y aura des moments de doute, de tension. Mais c'est vrai qu'au niveau des chambres fédérales, c'est un sujet qui interpelle beaucoup. Juste au passage, il y a entre 2000 et 2500 interventions par année qui sont déposées dans les deux chambres. Et sur cette question-là, à peu près une centaine qui débouchent souvent sur rien, parce qu'à peine déposées, elles sont déjà presque obsolètes, puisque l'évolution technologique ou alors certaines règles ont déjà évolué. Quand on voit les tergiversations avec les Américains sur TikTok, qui voulaient l'interdire, puis maintenant ils ne veulent plus l'interdire, ils veulent l'acheter. Donc ça montre bien que c'est des changements de société. Mais il faut être vigilant. Et je pense que l'approche vaudoise, elle est intelligente, je crois.
Tu voulais intervenir, Michel ? Non, c'est bon. Je vais élever la main. Monsieur Borloo, comment vous voyez l'enseignement dans les 5 à 10 prochaines années ? Déjà sur le canton de Vaud, puis peut-être même plus régional, plus suisse, mais déjà sur le canton de Vaud, comment vous voyez cette évolution de l'enseignement ?
Bon, alors, c'est une question là aussi qui est très vaste, comment on voit l'évolution de l'enseignement. Alors, l'école est traditionnellement assez conservatrice, hein, et je pense que c'est plutôt juste. Ça évite de prendre des décisions, peut-être d'essayer de suivre, en fait, un peu le vent. Et puis d'être tout le temps en train de changer. Donc il faut faire des changements, puis ensuite il faut stabiliser le changement. Et je pense que ça, c'est aussi très important. Donc moi, je ne m'énerve pas trop. Je remercie Pascal Baulis, il y a un instant, pour les propos. Je pense qu'on essaye, dans tout ce qu'on fait, d'avoir un rythme un peu humain. Et on va garder ça. On va garder ça parce qu'il faut, que les gens puissent ressentir un peu ces changements. Alors, pour certains, ça ne va pas assez vite. On voit toutes les questions liées à l'école inclusive. Certains aimeraient des changements immédiats. Ce n'est pas possible de faire des changements immédiats. Il a fallu des années pour en arriver où on est aujourd'hui. Et puis, on essaye de corriger un tout petit peu. Et voilà, vous me posiez des questions sur l'étendue de mon département. Il est évident, et tellement vaste et tellement complexe qu'on ne peut pas faire des changements comme ça. Et surtout, si on devait aller extrêmement vite, ça ferait des omelettes un peu partout. Hein. On ne peut pas casser des œufs sans faire des omelettes, mais ça casserait des œufs plutôt un peu partout. Et donc, ce n'est vraiment pas l'objectif. Donc, je pense que l'enseignement va continuer à avancer. On va faire plutôt des grands pas, comme ça. Et puis, avec des réflexions à chaque étape. Et si je reviens sur la question précédente liée au numérique, l'intelligence artificielle, etc., l'école a un rôle à jouer là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer d'armer les jeunes pour pouvoir entrer dans leur... être indépendants sans être trop influencés par tout ça. Donc oui, on va essayer de les armer. Mais à côté de ça, il y a des phénomènes de société qui dépassent l'école. Donc l'école va jouer son rôle, elle va participer à la réflexion, mais on a aussi une réflexion sociale à avoir. On veut quoi comme société ? Et ça... Ce n'est pas l'école qui doit répondre à ça. Ça, c'est un débat bien plus large, un débat politique qui doit avoir lieu au niveau fédéral, comme le suggérait Pascal Baulis un instant, au niveau cantonal aussi, au niveau planétaire. Qu'est-ce qu'on veut ? Moi, je constate autour de moi que, par exemple, dans les restaurants, il y a de plus en plus de très jeunes enfants qui ont abandonné le crayon couleur et les feuilles.
Les sets de table.
Les sets de table, etc. Au profit d'un écran et puis pour que les parents mangent tranquille. Voilà. Bon, alors on a tous les parents ont vécu ça. Et puis il y en a encore plein qui vont vivre cette problématique-là. On veut quand même aller au restaurant, mais les enfants se comportent pas bien. Bon, moi ça m'interpelle, bien entendu, et ça m'interpelle un peu négativement. Ça m'inquiète, pour tout dire, de voir là, ces tous jeunes enfants qu'on habitue à être dépendants d'un écran. Et donc de ne plus être créatif, de ne plus. Alors bien sûr. Donc on doit faire des choix de société. Sans doute que on doit commencer maintenant de la prévention. Les enseignants me le demandent. Ils aimeraient des informations solides sur lesquelles ils puissent s'appuyer pour transmettre de l'information aux enfants, mais pas que, aussi aux parents qu'ils croisent et qui viennent vers les enseignants pour leur poser des questions. Alors tout ça est en train de se construire et ça se fera pas uniquement à l'école. Vraiment, c'est un débat de société qui dépasse l'école. Nous jouerons notre rôle, mais et on le prend très au sérieux. Mais ces questions-là fondamentales, c'est de savoir comment on veut vivre demain.
Là, j'ai un sujet plus délicat à aborder avec vous, c'est que à l'été 2024, il y a un prof qui a fait l'objet d'une plainte pour un comportement déplacé. Où en est-on dans cette affaire et qu'est-ce que le Conseil d'État fait pour éviter ce genre de situation se reproduise dans le canton et même ailleurs peut-être.
Oui, alors, nous avons, en fonction de quelques expériences que j'ai vécues, pas beaucoup, mais une ou deux, disons, j'ai pris la décision de clarifier un tout petit peu les choses, notamment dans la relation des enseignants avec leurs élèves, y compris lorsqu'ils sont majeurs. Et ça, c'est valable dans la scolarité obligatoire et post-obligatoire. Donc, on a clarifié les choses pour que ce soit très clair. Mais j'aimerais quand même dire que aujourd'hui, dans le canton de Vaud, les parents peuvent compter sur des enseignantes et des enseignants qui se comportent bien. Je vous ai dit 15 000. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Mais elles sont très peu nombreuses par rapport à tout ce qui se passe de bien. Je veux vraiment apporter aussi ce message-là parce qu'il est important. Proportionnellement, vraiment, ça se passe bien. Et puis après, ça peut arriver. Ça ne doit pas arriver. Je ne tolère pas. Mais il y a des choses qui peuvent arriver. Alors, on clarifie un tout petit peu ça. Et puis, on est entré en contact aussi avec la HEP, la Haute École Pédagogique. L'idée, c'est que, dans le fond, ensemble, on met un peu des règles claires qui soient transmises à l'ensemble des enseignants. D'abord les enseignants qui sont allés aux études et qui apprennent le métier, bien sûr, ça c'est la priorité. Mais que ces mêmes règles-là, par le biais de mon département, on puisse aussi les transmettre à tout le monde pour qu'elles soient bien claires. Je pense qu'elles sont claires dans l'esprit de l'immense majorité de tous les enseignants. Et puis, mais peut-être c'est de temps en temps bien de les rappeler.
Oui, très bien. Sinon, quelle importance vous accordez aux médias traditionnels, papier, journaux, télé, radio? Est-ce que vous avez beaucoup d'interactions avec les médias dans votre activité de tous les jours de conseiller d'État?
Alors, à titre personnel, pas trop, c'est-à-dire pas trop. J'essaye pas d'être en permanence dans les médias parce que une information remplace une autre et donc c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de travailler. Mais en revanche, il y a une équipe de communication légère, mais une petite équipe qui fait du bon boulot et qui doit traiter tous les jours des demandes de journalistes et des questions sur l'école. Ça montre l'intérêt de la population d'une part et puis des médias qui reflètent aussi les préoccupations de la société sur l'école. Et je pense que là, on doit aussi faire, en ce qui concerne l'école vaudoise, un effort pour communiquer encore plus sur les belles choses qui se font à l'école. J'ai l'habitude de dire que sur le plan fédéral, la grande muette, c'est l'armée. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais sur le plan cantonal, eh bien, je pense que la grande muette, c'est un peu l'école. Parce qu'elle est très discrète. Elle concerne tout le monde, mais en même temps, elle exprime très peu ce qui se passe dans ses rangs, en son sein. Et je pense que là, on a un effort à faire pour donner plus d'informations sur ce qui se passe à l'école. J'essaye, en fonction de mon temps, Mais j'essaye d'accepter toutes les invitations pour faire des conférences un peu sur l'école, pour dire ce que j'ai dit maintenant au micro, et puis traiter un peu l'ensemble des grands défis de l'école vaudoise. Eh bien, je vois le plaisir que les gens ont à entendre parler, alors j'essaye d'y mettre du cœur, mais à entendre parler de l'école, de ce qui s'y passe, des grands défis, et puis aussi de choses toutes simples, mais juste pour rappeler aux gens, et je le fais maintenant avec plaisir, que lire, écrire, calculer, les savoirs fondamentaux sont toujours nos priorités, malgré le fait qu'on parle de numérique, malgré le fait qu'on doit étendre tout le temps la prévention scolaire, parce qu'il faut préparer les enfants quasiment à se comporter s'ils allaient sur la Lune. Donc, on nous demande tout à l'école, tout, d'être des citoyens, de tout savoir, etc. Donc, on essaye de faire beaucoup de choses, mais lire, écrire, calculer restent des fondamentaux que nous n'abandonnons pas, mais alors vraiment pas, et notamment toute la problématique du français. On a l'intelligence artificielle va effacer les correcteurs automatiques de nos téléphones, va peut-être reconstruire des phrases, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait abandonner notre langue? Mais pas du tout. Donc pour nous, c'est très important de garder l'esprit critique, comme vous le dites, bien entendu, mais de garder cet enseignement-là. Et on va continuer à le faire, en tous les cas, c'est vraiment un principe pour moi. On ne va pas abandonner ça, et puis on va évaluer en français les élèves. Et puis l'évaluation, elle est très importante. Et vous savez, l'orthographe française est quand même très complexe, et c'est donc très important que les élèves soient évalués, parce qu'ils ne seront pas tous bons. Et ils ne sont pas tous bons en orthographe. C'est pas possible d'avoir un bon niveau pour tout le monde. Mais ils doivent savoir où ils sont mauvais. Ils doivent savoir quand ils quittent l'école qu'ils ne peuvent pas envoyer une lettre à un employeur sans la faire relire par leurs parents ou par un proche qui est bon en orthographe. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui semble évident, mais ça s'est peut-être un tout petit peu oublié. Et je crois en cette évaluation-là et je crois en l'enseignement des branches fondamentales.
Très bien. Il y a une conférence de presse hier, il y a une news qui a été relayée par la RTS ce matin qui fait état d'un contexte dégradé à la mi-législature des finances du canton et que vous devez prioriser certains projets. Quels projets seront priorisés jusqu'à la fin de la législature, je crois, en 2027, au détriment de quels autres?
Voilà, alors vous êtes à peu près le 15e
qui pose la question aujourd'hui.
Journaliste qui pose la question. Merci de la poser. C'est la 15e fois que je réponds. Ça, je ne peux pas répondre maintenant parce que précisément, les priorités, on va aller discuter au fur et à mesure que les informations nous sont transmises sur la prochaine étape, c'est le bouclement des comptes. Et puis ensuite, c'est l'établissement du budget. Et puis entre deux, il y aura plein d'informations sur le volume des recettes, la situation de la Banque nationale suisse. Enfin bref, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui rentrent en ligne de compte pour faire une analyse et puis ensuite faire des choix. Mais alors j'aimerais quand même rassurer, on a dit qu'on devait faire des choix et des priorités à choisir, bien sûr. Mais M. Boulis est là à côté de moi, c'était déjà le cas avant. C'est toujours le cas. Il y a toujours des priorités qu'il faut déterminer. Puis des fois, c'est un peu plus serré, d'autres fois, c'est un peu plus large. Mais on fait des choix. Par définition, la politique, l'exercice politique, il y a un petit côté boulimique, parce qu'on a tous envie de faire des choses. Et puis la population, elle a tout le monde a une idée individuellement sur ce qu'il faudrait faire. Si vous cumulez tout ça, je pense qu'on devrait chaque année investir peut-être 20 milliards dans le canton de Vaud, alors qu'on en est à 500 millions. Je pense que c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. On est dans une période un peu serrée, c'est vrai. C'est un contexte général. Tous les cantons le disent. La situation a changé, etc. OK. Ça, c'est vraiment conjoncturel. On doit faire des priorités, mais encore une fois, on n'est pas les premiers à devoir en faire et pas les derniers. Ça fait partie du jeu. Ça s'est très bien fait par le passé par un ministre, entre guillemets, des finances qui a bien géré tout ça. Et avec une bonne collaboration de ses collègues, j'imagine, mais non sans friction. Faire des choix, c'est renoncer. Et renoncer, ma foi, on renonce en permanence. Je vois dans mon département, il y a plein de projets auxquels je dois dire non, parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'ils concernent qu'une minorité des élèves ou des enseignants, etc., etc. On fait ça tous les jours. Tous les jours, on dit oui, non, voilà, on fait des choix. Et donc, en fait, il n'y a rien de nouveau. On en parle un peu plus parce que, voilà, un gouvernement, vous savez, quand on est au gouvernement, alors on doit faire des choix. Puis on ne fait pas plaisir à tout le monde. Et puis, à côté de ça, pour l'instant, on les a fait ensemble, avec l'ensemble des conseillers d'État autour de la table. Et on a pris, donc ça veut dire qu'on ne fonctionne pas si mal. Et puis, on a pris des décisions. Et puis, il n'y a que ceux qui ne prennent pas de décision qui se trompent jamais. Donc, moi, je ne suis pas inquiet. Je vais continuer à gérer mon département en collaboration avec les personnes qui en sont responsables. Ça se passe bien. Je suis entouré extrêmement bien par des gens très compétents et à participer aux réflexions plus larges avec mes collègues et puis à faire des choix. Et puis, voilà. C'est ça, notre responsabilité, d'abord. Et c'est si on ne les faisait pas... Là, vraiment, on pourrait nous le reprocher. Et ces choix-là, même s'ils sont des fois difficiles, eh bien, ma foi, ils sont faits. Mais au fin du compte, en général, on dit quand même merci à ceux qui ont géré les choses avec le plus grand sérieux.
Est-ce qu'il vous arrive de consulter peut-être Pascal, sa casquette d'ancien ministre cantonal des Finances, pour un conseil ou un petit coup de pouce ou quelque chose, ou maintenant qu'il est au Conseil des États voilà, il fait son job, il vous le vote de votre côté. Quand je dis vous, au sens conseil d'État incorpore, ouais. Ça vous arrive encore ou pas de...
Alors moi j'ai un petit défaut, c'est que je consulte assez peu. Mais ce que je dois dire, c'est que comme on s'est toujours bien entendu et que ça continue, j'ai d'ailleurs beaucoup de plaisir de passer cette soirée avec. Je vais bientôt, je crois, si j'ai bien compris, devoir enfiler une salopette
c'est le costume officiel
comme la sienne,
voilà.
Alors les auditeurs ne peuvent pas voir, mais ça ne lui va pas très bien, mais on aura tous les deux l'air qu'on a, quoi.
Oui, mais c'est plus que deux, je vous rassure,
voilà, plus que deux, donc, mais c'est égal,
une vingtaine, en tout cas.
C'est pour le fun, et puis ouais. On échange beaucoup comme on le faisait par le passé dans nos rôles respectifs. Moi, c'est important aussi de savoir qu'est-ce qui se passe à Berne, dans quelle direction les choses vont. Et puis là, il a parfaitement bien pris les choses en main. Et donc, en très peu de temps, il s'est mis au courant des dossiers principaux. Et donc, ça, c'est vraiment très agréable pour nous d'avoir un partenaire. Il représente le canton, finalement, dans les chambres. Alors, lui aussi, à titre personnel, bien sûr, mais également le canton. C'est, comme ancien conseiller d'État, c'est bien sûr quelque chose qu'il a en lui. Il a été assez longtemps pour vraiment que ça... Tout ça coule dans ses veines et la collaboration entre nous est vraiment très bonne. Et donc, c'est normal qu'on partage quelques-unes de nos préoccupations communes.
Très bien. J'ai encore une question pour Michel. J'ai cité M. Grandjean avant, il a fait 24 ans chancelier d'État. Si toi, tu pouvais prendre la DeLorean, revenir quelques années en arrière, est-ce que tu ferais aussi 24 ans à ce poste ?
Alors, je ne vais pas faire 24 ans, ça, oui. Je pense que le calendrier ne le permet pas.
Permet pas, non.
L'histoire a été faite, je suis très content du parcours, puis des fonctions que j'ai pu occuper au sein de l'État de Vaud, dans le privé aussi, dans les hôpitaux. Donc, non, on ne refait pas, l'histoire, on doit avancer avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de pouvoir fonctionner comme chancelier au service du Conseil d'État et de la population vaudoise.
Très bien.
Et nous sommes aussi très contents qu'il soit
chancelier.
Il s'est très vite mis à la tâche avec des bons résultats.
Très bien.
Merci.
On va passer aux dernières questions pour vous, M. Borloo, les plus difficiles. Donc, c'est un petit questionnaire de Proust, un petit peu que je fais habituellement. Vous n'avez pas de joker, mais vous pouvez commenter chacune de vos réponses. On va commencer par la plus facile. Thé ou café ?
Café.
C'est plus stimulant que le thé pour démarrer
la bouche. Faut répondre en général assez rapidement. Ouais. Même. Si vous voulez que je commente tout, je vais vous dire, je bois un thé vert tous les matins. J'aime bien ça. Un thé vert que je choisis. D'ailleurs, certains le savent, et quand ils viennent dans mon bureau, ils disent « Est-ce que je peux goûter cet excellent thé vert ?» Et puis sinon, je bois 2-3 cafés, pas plus. Et je suis content comme ça. Comme ça, vous savez tout.
C'est très bien.
Et puis, je bois plus d'apéro, parce que comme conseiller d'État, on n'a plus le temps de boire l'apéro. Alors, ma foi, c'est comme ça. Mais j'en ai largement profité comme syndic d'Aigle. C'est très différent quand vous êtes syndic dans une commune viticole. Vous êtes largement sollicité. Et maintenant, voilà, c'est un peu une autre vie.
dans une partie plus solide, plutôt gruyère ou tofu.
Alors, ça, c'est sans été gruyère pour plein de bonnes raisons.
Très bien. On parlait avant de la presse, plutôt journal papier ou numérique ?
Ah, ben j'aime bien le papier. Et puis, parce que je lis beaucoup plus vite aussi. Mais c'est ma génération. Je vois mes enfants. Et voilà, plus de papier. Quoi. Même quand je l'ai dans la main, et puis je leur dis, tiens, regarde, il y a un article qui peut t'intéresser. Ils prennent leur téléphone et ils vont le chercher sur leur téléphone. Donc, voilà, dire que le monde ne change pas et vouloir pas participer à ce changement, c'est se faire mal à soi-même.
Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez originaire d'Aigle. Il y a un carnaval très connu là-bas, c'est celui de Montet. Lequel vous inspire le plus, celui de Sainte-Croix ou celui de Montet ?
Alors, celui de Sainte-Croix, je vais y participer.
Vous allez le découvrir.
Et puis, vous me réinvitez, puis je vous répondrai lequel est le plus inspirant. Alors, c'est vrai que nous, dans la partie, Aigle, dans cette partie du Chablais, on a pas de carnaval, on a cette braderie, c'est une grande fête aussi, et voilà, qui est aussi, bien entendu, très inspirante pour tout le monde. Hein. Avec un peu de chasse, là, tout est inspirant. Ouais.
Puis la question la plus tricky de ce questionnaire, je vois que notre ami Patrice qui est derrière la vitre, il va être très intéressé aussi. Est-ce que le PLR va reprendre la majorité en 2027 au sein du Conseil d'État, selon vous ?
Bah, reprendre, ça voudrait dire qu'on l'aurait perdu. Donc on n'a pas du tout l'intention de la perdre et on va bien entendu la conserver.
Très bien. Donc on arrive, on a même dépassé un peu le timing pour cette interview, il est un peu moins 20. Je remercie... Yvon qui est déjà parti, mais Michel, notre chancelier d'État, Pascal, notre conseiller aux États à Berne, et Monsieur Borloo qui nous a fait le plaisir de venir et de répondre très spontanément à toutes ces questions un peu compliquées. En tout cas, merci pour votre participation. Je vous souhaite bon courage pour aller bosser sous la cantine. On va boire un petit jus et manger un petit quelque chose si vous avez un petit creux à la buvette tout à l'heure. Et on va continuer en musique. Merci Stan pour la partie technique d'avoir géré comme un chef. Et puis je vous souhaite une belle soirée et un bon carnaval surtout.
Merci pour votre invitation. Merci, on attend ça pied ferme.
Merci beaucoup.
Belle soirée.
Belle soirée.
H Studio, votre agence de communication et d'événementiel à Sainte-Croix, vous souhaite un bon début de soirée.
Bière du Boxer, brassée avec passion à Yverdon.
De la viande de gibier sauvage à l'année, c'est chez Festis Anglais à Chavornay. Une vaste gamme de choix disponibles à la commande. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Festis Anglais ou prenez directement contact avec nous au 078 634 86 32.
Rénovation ou construction neuve, votre charpentier, Laurent Boux, réalise tous vos projets. Charpente, ferblanterie, plafond tendu, pose de véranda et fenêtres. Pour plus d'informations, contactez-nous au 024 454 37 21 ou par mail bl.construc@bluein.ch.
Faites la fête et rentrez en toute sécurité avec Travis.
La ligne Yverdon-Sainte-Croix vous accompagne dans tous vos déplacements.
Notre personnel se tient également à votre disposition tous les jours à la gare de Sainte-Croix.
Parmi les services proposés, notre guichet s'occupe d'organiser vos voyages en Suisse et à l'étranger.
Vous pouvez également effectuer du change et déposer vos colis DHL.
Travis, transport et connect.
Dis donc, tu t'es fait ch*er au volant de ton John ? Eh bien, allumez votre radio, car de 13 à 14 heures, ça groove dans le tracteur avec Stan.
Tu kiffes les Guggen Music ? Et tu trouves qu'il n'y en a pas assez le reste de l'année ?
Alors, retrouve les Guggen en concert dans le village et sur la scène du bâtiment communal, samedi de 14h à 18h.
vie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connasse hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, 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 tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
want to live as an untold story. Rather go out in a blaze of glory. I can't hear you. I don't fear you. I live now cause the bad die last. Dodging bullets with your broken past. I can't hear you. Love.
I can call my own. That's where I go till the night is gone. I travel my mind and into my heart. Nobody knows when I go that far.